Bonjour à chacun. Voilà. Aujourd'hui, on va rester dans les Colossiens, mais on va s'en éloigner un petit peu. Donc, vous comprenez peut-être pas, mais j'aimerais prendre un des passages que Yann a mentionné déjà. J'avais prêché une fois d'une certaine perspective sur ça. C'est dans Colossiens 1, 10, où nous sommes encouragés. Suite à tout ce que Paul écrit dans les 10 premiers versets, il écrit, je vais lire depuis le verset 9, c'est pour cela que nous aussi, depuis le jour où nous en avons été informés, donc de votre foi, de votre charité et tout ça, où c'est que j'en suis, que vous, voilà, nous ne cessons de prier Dieu pour vous et de demander que vous soyez remplis de la connaissance de sa volonté en toute sagesse, intelligence spirituelle. Et puis après, il y a cette petite phrase, et pour marcher, donc il prie pour marcher d'une manière digne du Seigneur et lui être entièrement agréable, en portant des fruits. Et j'aimerais juste m'arrêter sur ce marcher d'une manière digne du Seigneur. Mais j'aimerais le prendre dans un contexte peut-être un tout petit peu différent. Avant qu'on vienne sur le thème d'aujourd'hui, j'aimerais simplement vous poser une question. Tu peux juste mettre la première slide, et puis comme ça devrait, espérons, venir. Savez-vous? D'accord? Là, il le dit mieux que moi. Il dit pas savez-vous? Vous voyez comme il est là? Puis ça fait comme ça. Savez-vous? D'accord, je voulais pas le faire pour vous réveiller trop avant. D'accord, mais voilà. Et la question, en fait, c'est une question que Jésus pose dans une des paraboles. Et il pose la question, et je vais vous la poser à l'envers ce matin. Savez-vous reconnaître un homme qui a bâti une maison, qui a creusé, qui est allé profond et qui a assis les fondements ou les fondations sur le roc. Alors, des fois, je suis un petit peu interactif, on va être un petit peu interactif ce matin. Comment vous reconnaissez ça? Comment vous reconnaissez une personne qui a construit sa vie, qui a creusé, qui a allé profond et qui a assis les fondations sur le roc? Il faut du temps, il faut des tempêtes. D'accord? Ça sera le thème de ce matin. Mais comment vous reconnaissez en fait ces personnes? Ils ne se laissent pas facilement ébranler. D'autres choses? Ils creusent profond, hein? Et comment est-ce qu'ils creusent profond? Ça veut dire quoi? Concrètement, qu'est-ce que vous allez voir chez cette personne? La paix, l'amour, la joie? Ouais. C'est les fruits, hein? Il reste fidèle à Dieu. D'accord? Prend du temps avec lui. Ouais. Persévérance. Voilà. Alors, on est un petit peu là-dedans. Et puis, ce marcher d'une manière digne, il vient un petit peu dans cette dynamique. Et il y a un ordre. Dans la parabole que je viens de vous lire, juste un verset. Où Jésus pose cette question, c'est comme ça que vous allez reconnaître. Et il décrit la personne, et puis après il donne l'exemple. Ben ça, voilà, c'est des gens qui vont creuser, aller profond et qui construisent sur le roc. D'accord? Et puis je vais juste vous donner, il y a 3 points brièvement sur ça. Le premier point, c'est que c'est des gens. Hop là, je vais un petit peu vite avec tout ça, moi. Ah, ça fait pas tous les machins. Ok. Alors voilà. Ben, je vais vous les donner. On oublie ça. Et puis voilà. La première chose que Jésus dit, c'est des personnes qui viennent à moi. C'est des personnes qui vont prendre du temps pour venir vers moi, qui vont passer beaucoup de temps dans ma présence. Le deuxième point qu'il donne, c'est que c'est non seulement des personnes qui viennent, mais c'est des personnes qui écoutent ce que je dis. C'est tout dans la parabole des deux terrains. Hein. Et là-dedans, il y a différentes manières d'écouter. Vous verrez que je lis un petit peu beaucoup de paraboles et tout ça, et puis après on viendra sur un psaume. Il y a d'abord, je viens vers Jésus, je passe du temps, mais ma condition de cœur, la condition de mes oreilles, c'est le chemin qui est décrit dans la parabole avec les quatre chemins, avec le semeur qui sème. Et puis, de temps en temps, on est là, on entend. Et puis, il y a quelque chose qui vient, il y a Satan qui vient, et puis il enlève tout ce qu'on a entendu. Et puis, il y a d'autres moments dans nos vies où on va être dans la rocaille. Le terrain de mon cœur, il sera rocailleux. Il y aura beaucoup de petits cailloux, de gros cailloux. On entend toujours. On reçoit même avec joie. Waouh, c'est génial cette parole, Seigneur, merci. Mais il n'y a pas de racine. Et puis, il y a la tentation qui vient, et puis on succombe. On oublie, on va faire autre chose, on va faire ce qui nous plaît, on ne va pas obéir. Et puis, il y a un autre terrain, c'est les épines. Tous ces machins qui poussent, qu'on aime bien dans le jardin. Frédéric, il les aime beaucoup, ceux-là, parce qu'il doit aller à quatre pattes pour aller les... Hein. Mais on entend aussi quand on est dans cet endroit. Et on laisse ces paroles, ce qu'on entend, s'étouffer par les soucis de la vie, par la richesse, par les plaisirs de la vie. Et puis, de temps en temps, j'espère, quand même, un petit peu de bonne terre dans nos vies, où on entend avec un cœur qui est honnête, qui est bon, et où on met en pratique ce qu'on entend. Et ça porte du fruit avec persévérance, ça porte du fruit en abondance, fois 10, fois 50, fois 100. Et là aussi, simplement de se mettre, où c'est que j'en suis maintenant, Seigneur ? Quel terrain mon cœur il est aujourd'hui avec toi ? Parce qu'on n'est pas toujours dans ce bon terrain, dans cette bonne terre. Hein, y a les soucis, y a plein de trucs qui se passent dans nos vies. Et là-dedans, j'aimerais prendre un petit peu ce marché digne, d'une manière digne du Seigneur. Juste encore un mot sur cet ordre, viens, écoute et applique, mets en pratique. C'est obligé d'aller dans ce sens. Je ne peux pas commencer par appliquer quelque chose que je n'ai pas entendu. Et pour entendre, je dois aller vers la personne. Ça ne peut pas aller dans le sens inverse. D'accord ? Parce que sinon, ben, j'applique ce que moi je pense, ce qui me plaît à moi. Mais c'est obligé que ça aille dans cet ordre. Viens, écoute et applique. Dans quel terrain es-tu ce matin ? Et puis, dans quel terrain es-tu ces temps ? Et à partir de là, on vient pour écouter, pour mettre en pratique, marcher d'une manière digne du Seigneur. Ça veut dire que je dois m'approcher de lui pour entendre qu'est-ce que c'est cette manière digne, et puis pour la mettre en pratique. Et ici, on pourrait partir dans 10 000 directions. On pourrait partir dans les 10 commandements, on pourrait partir dans la loi, on pourrait partir dans le grand commandement, aime Dieu, aime ton prochain comme toi-même. C'est un endroit pratique, marche d'une manière digne. On peut aller dans plein de directions différentes. Et ce matin, j'aimerais m'arrêter, et je me sentais conduit pour parler de ça, sur une perspective ou un endroit de nos vies où dans l'Église, on y est confronté de manière régulière et depuis longtemps. Où dans nos vies, souvent, on est dans cet endroit. Et où on va être en relation avec des personnes qui sont aussi dans cette dynamique de vie qui ne fait pas de sens. Et j'aimerais qu'on puisse regarder comment est-ce qu'on peut marcher d'une manière digne du Seigneur dans le contexte de la souffrance et des difficultés. Alors, on pourrait aussi partir là sur le côté, ben, il faut qu'on prie pour la guérison, il faut qu'on prie pour la libération, il faut... Alors oui, il faut le faire. Mais il y a toujours cette période entre et puis jusqu'à comment est-ce que je marche d'une manière digne du Seigneur quand je suis dans la boue, quand je vois plus jour, quand je suis dans le brouillard, quand ça fait mal, et puis que ça fait tellement mal que ça fait trop mal. Et puis qu'il n'y a plus d'espérance, et puis qu'il y a plus de... Et puis je perds un petit peu tout ça. Comment est-ce que je marche là-dedans, dans la gadoue, d'une manière digne du Seigneur ? Et c'est un petit peu le thème que j'aimerais voir avec vous ce matin. J'ai donné le titre un petit peu pour ce message, la théologie de la souffrance. Ce n'est pas une théologie qu'on parle beaucoup, mais c'est une théologie qui est super importante. Et dans le contexte dans lequel je travaille avec les missionnaires, les travailleurs humanitaires et tout ça, c'est un des points quand les gens partent sur lequel ils vont devoir travailler. Parce qu'ici, on est dans un contexte où tout va plus ou moins bien. On n'a pas trop tous les jours de la violence à nos portes, on n'a pas la pauvreté, même si elle est là, devant notre nez, quand on sort de la maison. J'avais un missionnaire qui me disait une fois, la pauvreté, moi, sur le terrain, elle est sur mon pas de porte. Parce que ceux qui sont pauvres, et ce n'est pas ceux qui arrivent à gratter puis à juste survivre, c'est ceux qui sont vraiment pauvres, ils dorment sur mon pas de porte à l'extérieur de la maison. Et chaque fois que j'ouvre la porte, ils sont là, je dois passer par-dessus. Et là-dedans, on est obligé d'avoir une nouvelle théologie. Le Dieu est bon et tout ira bien, ça ne passe pas. Ça ne suffit pas. Cette théologie-là, elle ne fonctionne pas là-dedans. Oui, Dieu est bon, il est amour. Mais ce n'est pas égal, tout ira bien. Parce que ce n'est pas ce qu'il nous promet. Il nous promet d'être avec nous, ça c'est une chose. Et c'est un petit peu cette réflexion que j'aimerais avoir avec vous, cette théologie de la souffrance. Comment est-ce qu'on marche, comment marches-tu d'une manière digne du Seigneur, au milieu de la souffrance, au milieu des tensions, quand c'est là, puis que ça continue, puis qu'il semble que ça n'a pas de fin. Et puis on prie, on a toujours la foi, mais on est toujours dedans. Ceux qui sont persécutés, 10 ans, 20 ans en prison, waouh! Comment tu marches là, dans cette situation, d'une manière digne du Seigneur? Et on a beaucoup, beaucoup à apprendre de ces gens, beaucoup à apprendre. Et j'aimerais qu'on puisse lire dans ce contexte le psaume 13. Et on va se baser un petit peu sur ce psaume de David. C'est un psaume où je crois qu'on a beaucoup à apprendre de David. Je vais vous le lire et puis ensuite on va le parcourir ensemble. Psaume de David, psaume 13. Hein. Jusqu'à quand, Éternel, m'oublieras-tu sans cesse? Jusqu'à quand me cacheras-tu ta face? Jusqu'à quand aurai-je des soucis dans mon âme et chaque jour des chagrins dans mon cœur? Jusqu'à quand mon ennemi s'élèvera-t-il contre moi? Puis au lieu de l'ennemi, vous pouvez mettre la maladie, vous pouvez mettre le chômage, vous pouvez mettre tout ce que vous avez envie d'y mettre. Jusqu'à quand? Jusqu'à quand? Jusqu'à quand? Regarde, réponds-moi, Éternel mon Dieu, donne à mes yeux la clarté. Hein, j'aimerais voir, afin que je ne m'endorme pas du sommeil de la mort, afin que je ne meure pas en d'autres, afin que mon ennemi ne dise pas « je l'ai vaincu » et que mes adversaires ne se réjouissent pas si je chancelle. Et puis ensuite, il y a ce verset 6, dans le même psaume. « Moi, j'ai confiance en ta bonté, j'ai de l'allégresse dans le cœur à cause de ton salut. » Je chante à l'Éternel, car il m'a fait du bien. Puis vous vous dites, David, t'en es où? Qu'est-ce qu'on peut apprendre de David là-dedans? Et je crois qu'il y a cette reconnaissance dans David. Il vient vers Dieu. Il s'approche, parce qu'il a cette relation. Hein, il est l'homme qui est décrit par Dieu, l'homme selon le cœur de Dieu. Il vient, il a cette relation, il a cette connexion. Et il ne vient pas juste demander. Guéris-moi. Il le dit aussi. Mais il épanche son cœur devant Dieu. Mais Seigneur, ça dure trop. Jusqu'à quand, moi? Mais jusqu'à quand? Jusqu'à quand? Et puis il y a plein de choses là-dedans. Hein? Il y a le jusqu'à quand vas-tu m'oublier? Parce qu'il se sent totalement oublié par Dieu. Délaissé, il semble que Dieu il est occupé ailleurs, mais il n'est en tout cas pas là. D'accord? Et parfois, il y a ce sentiment de solitude, d'être abandonné par Dieu, qu'on peut vivre. Jusqu'à quand me cacheras-tu ta face? Je le cherche et puis je ne le vois pas. J'aimerais bien. Où c'est que t'es? Jusqu'à quand aurai-je des soucis dans mon âme? Vous voyez, là, il commence à changer un tout petit peu. Il commence à parler de ce qu'il y a à l'intérieur. Et puis Dieu, c'est son ami, et puis il lui parle, puis il lui dit, mais j'ai des soucis, et j'imagine qu'il lui dit ses soucis. Jusqu'à quand ça va être là-dedans, tout ça? Chaque jour, des chagrins dans mon cœur. Hein, vous imaginez ce cœur qui est lourd, qui est embêtant, qui a... Et jusqu'à quand mon ennemi s'élèvera-t-il contre moi? Jusqu'à quand? Et il pose cette question. Et tous ces endroits où on se sent délaissé, oublié, abandonné, peut-être même rejeté, où il nous semble que Dieu, il n'est juste pas là, où il y a du souci dans l'âme, où il y a ce chagrin dans le cœur, où il y a une lourdeur, où il y a des tonnes. Là, il parlait de blocs de béton sur la route. Mais au lieu qu'ils soient sur la route, ils sont là-dessus. D'accord. Puis c'est pas chouette, hein, de marcher comme ça. C'est dur de marcher de cette manière-là. Et c'est toutes des choses qui, dans nos vies, peuvent procurer la solitude, l'isolement, parce qu'on ne sait pas trop quoi faire avec. Et puis au lieu d'aller, de venir, comme il nous invite, viens à moi, eh ben, je m'isole et puis je ne parle plus. Je m'isole non seulement de Dieu, mais je m'isole aussi des autres. Il y a souvent cette peur, cette anxiété, cette honte, peut-être la culpabilité, la colère qui vient là-dedans, la confusion, les questions, les doutes, le découragement. On fait face à plein de pertes. Et au milieu de tout ça, comment est-ce qu'on marche d'une manière digne du Seigneur ? Qu'est-ce que les gens autour de nous, ceux qui ne connaissent pas Dieu et ceux qui le connaissent, qu'est-ce qu'ils vont voir en toi, en moi, si on marche d'une manière digne du Seigneur dans cet endroit? Qu'est-ce qui est différent de ceux qui n'ont pas Dieu? Et je crois qu'une des clés là-dedans, c'est d'accepter qu'il y a des mystères. Et c'est cette tension, je vis au milieu de choses où j'aimerais comprendre, j'aimerais savoir, j'aimerais que ça fasse du sens, mais ça ne fait pas de sens. Et il y a un mystère qui est là. Et je vis dans cette tension. Et dans cette tension, je viens à Dieu et j'épanche mon cœur, comme à un ami. En même temps, je ne viens pas juste pour épancher mon cœur. Il y a cette rencontre avec Dieu. Il y a ce face-à-face avec lui. Quand je viens vers quelqu'un, il y a un face-à-face. Il y a une relation qui est là. Et on a chanté tout à l'heure, « Dieu, tu es ma force, ma consolation, mon ancre, ma voile. » Dans ces moments-là, jusqu'à quand, éternel? C'est difficile de se dire « oui, tu es ». Mais ça, ça va venir de la révélation quand on passe du temps dans sa présence. Et c'est mieux de commencer quand la vie, elle va assez bien. Ben oui, parce que si j'ignore la relation quand ça va bien, quand ça va mal, ça ne va même pas venir à l'idée d'aller voir cette personne. On parle de Dieu là, hein, mais on est d'accord. Et quelque part là-dedans, il y a une révélation. Je viens à Dieu tel que je suis, mais je viens à Dieu tel que lui, il est, en tant que Dieu. Et je dois accepter que parfois, ma perspective, ma compréhension de Dieu, mes croyances sur Dieu, elles sont pas mal tordues. Que je crois des choses sur lui, tout au fond là, même si j'ai la bonne théologie ici, qui sont pas mal tordus. Parce que l'en bas, je me dis, de toute façon, il est comme tout le monde, il n'est pas là, il n'est jamais là, il n'y a jamais personne qui m'aide, et puis blablabla. Bla, bla, bla. Ou bien il est en colère contre moi, ou j'en sais rien quoi. Mais David, là-dedans, il vient vers ce Dieu, et il a déjà toute une expérience avec ce Dieu. mais il a besoin de quelque chose de frais, de nouveau. Et j'aime beaucoup ce verset 6 qui vient là-dedans, parce que c'est au milieu de cette tension qui est énorme, où il va dire, j'ai confiance. Alors je vous ai mis le mot hébreu, je l'ai déjà partagé quelques fois ici, ce mot hesed, qui est le mot, il est abondant en bonté, en amour. Et c'est un mot qui parle de l'amour de Dieu. C'est un amour légal, c'est un amour où il est engagé à 100% à t'aimer. Même si toi, tu l'aimes que 10%, que 0%, parce que tu n'es pas encore de son côté, que n'importe quoi, lui s'est engagé en Christ à t'aimer 100%. Il veut te montrer sa bonté, sa miséricorde, sa compassion. C'est ce qu'il veut que tu expérimentes. Oui, des fois, il vient visiter des endroits où c'est que ça met des obstacles dans ta vie avec lui. Puis on n'aime pas trop ça, on se dit, oh mais Dieu, là, il est pas sympa, hein, venir montrer ses trucs dans ma vie. Mais non, mais ce n'est pas pour te mettre en bas, ce n'est pas pour t'accuser. C'est juste pour dire, mais il y a un obstacle entre toi et moi. Et puis reviens à moi. Reviens à moi. On revient de nouveau. Hein. C'est une personne qui creuse profond, qui est sur le solide. Elle vient à Christ. Puis parfois, on est un petit peu loin, ou bien des gros obstacles, des gros cailloux sur le chemin. Et puis ça bloque. On ne peut plus venir. On s'approche un petit peu, mais on ne vient pas jusqu'à lui. Et David, là, dans cette tension, dans ces mystères, ne se bloque pas jusqu'à avoir une réponse. Il accepte le mystère et il accepte cette révélation de Dieu. Et il dit, je mets ma confiance en toi, Seigneur, parce que tu dis que tu es amour, parce que tu dis que tu as un Dieu qui est bon. Et je déclare ça. Et c'est ce qu'il fait dans ce psaume. Il déclare, j'ai confiance en ta bonté. J'ai de l'allégresse dans le cœur. C'est un sacré contraste, hein, vous imaginez. Là, pendant tous les premiers versets, là, il parle de la lourdeur, il parle de tout ça, puis d'un coup, il dit, j'ai l'allégresse. Wow. Qu'est-ce qui fait la différence? Sa situation, elle n'a pas changé, là. Excusez-moi. Et c'est ce vient. Parce que tout à coup, il est de nouveau face à face, en relation intime avec ce Dieu. Et puis, il peut déclarer, waouh, ça me rend heureux de savoir que tu es là. Tu es ma force dans cette situation. Tu es ma consolation. Oui, je continue de prier pour que je sois, jusqu'à quand? Jusqu'à ce que je sois délivré, jusqu'à... Mais au milieu de ça, il y a cette force de cette présence de Dieu. J'ai de l'allégresse dans le cœur à cause de ton salut. Combien de fois est-ce que quand vous êtes dans le pétchi, ça vient peut-être chez nous là-bas un peu, dans le pétrin, vous dites ici, ou bien dans la gadoue, dans la boue, dans tout ce que vous voulez, qui fait du sens pour vous, combien de fois est-ce que vous repensez à son salut? Combien de fois est-ce qu'on revient à cet amour incroyable de ce message ici, la croix? C'est impressionnant ce qui se passe à la croix. Et quand on revient là, mais il y a de la joie, il y a de l'allégresse de nouveau. Au milieu de cette souffrance, de cette douleur, de ces incompréhensions, de ces mystères. Et c'est dans ce vient qu'on écoute aussi. Parce que souvent, quand on est dans ces endroits, on a tendance à causer beaucoup, à se plaindre, ou alors à se taire, à ne plus rien dire. Mais en faisant ça, on ferme aussi ça. On ferme pas seulement ça, on ferme souvent aussi cela, parce qu'on n'écoute plus. Et là, au milieu, il y a cette relation, il y a ce vient. Je chante à l'Éternel car il m'a fait du bien. Hein, il a amené sa complainte, et puis en même temps, il redécouvre, il se proclame, il redit à Dieu qui il est, et puis il se met à le louer, à l'adorer, et à le chanter. J'aimerais vous inviter juste une petite minute à cette prochaine question. Au milieu des tensions de ta vie qui ne sont pas résolues encore, et dans la communauté, on en a pas mal. Ton histoire à toi. Quels sont les compagnons de ta vie non invités? Ça, c'est le livre d'un ami à moi que j'ai rencontré ou d'un ami, peut-être un grand mot, mais une personne que j'ai rencontrée au mois de février. Il était orateur et il a écrit un livre sur la théologie de la souffrance. Et au lieu de l'appeler théologie de la souffrance, il l'a appelé mes compagnons non invités de ma vie. C'est chouette, hein? Il y a plein de gens qui voyagent avec nous, qui viennent chez toi à la maison, mais ils ne sont pas invités. Et puis, voilà comment est-ce que je vais. Alors, quels sont tes compagnons à toi, non invités? Quels sont ces endroits? Jusqu'à quand, Seigneur? Et je vous encourage peut-être à prendre ça aussi durant cette semaine, puis à marquer ces choses, à les nommer, à venir à Dieu avec, peut-être à dire à Dieu, jusqu'à quand? Et il y en a certains, je sais qu'ils le font déjà, ce jusqu'à quand. Et puis en même temps, de passer dans la présence du temps, dans la présence du Seigneur, de s'arrêter, de venir lui dire, mais aussi de l'écouter, de le découvrir, de découvrir qui il est là au milieu. Et peut-être de marquer de l'autre côté de votre feuille la bonté de Dieu envers moi. Se rappeler cette bonté. Se rappeler son salut, se rappeler cet amour, se rappeler le bien qu'il nous a fait et qu'il nous fait. Et ça me rappelle souvent cette question de cette théologie de la souffrance, Jésus dans le jardin de Gethsémané, qui est dans une souffrance incroyable, plus seul que seul, parce que même ses meilleurs amis y dorment. Et puis, c'est là-dedans qu'on vient, et dans cet endroit, dans cet endroit, de simplement venir dire, il y a des questions, mais je laisse ces questions, Seigneur, et puis je veux te découvrir, toi. Je veux entrer dans cette présence. Et puis la louange, l'adoration est un grand morceau là-dedans. D'accord? Et c'est des choses dans lesquelles, je crois, on doit grandir. Je vous encourage à aller dans des endroits aussi où ça se pratique. Parce qu'on apprend les uns des autres. Et je crois qu'il y a quelque chose de très, très profond là-dedans. Donc je vous encourage à prendre peut-être ça avec, hein, parce qu'une minute, vous aurez le temps de rien faire et puis... Je trouve que c'est bête, en fait, de donner juste une minute. Donc, prenez ça avec vous. Et puis, commencez à marquer ces choses, à venir à Christ avec, là-dedans. Maintenant, il y a pas mal de paradoxes dans cette histoire, dans ces tensions, dans ce jusqu'à quand, et puis j'ai confiance. Il y a un des paradoxes, c'est que souvent, quand on est dans cet endroit de tension, de difficulté, de souffrance, on aimerait en sortir tout de suite. Le mieux, ça serait hier. Et de nouveau, il faut qu'on prie pour ça, parce que Dieu, il est puissant et il amène aussi la guérison, il amène la délivrance. On veut vivre ces choses de plus en plus et moi, je crie pour ça. En même temps, comment est-ce que je vis quand je suis dedans? Est-ce que je suis toujours dans ma tête déjà là-bas de ce que Dieu il aurait déjà fait et je ne suis plus du tout là? Et puis je ne suis plus qu'à me plaindre, à attendre, à etc. Ou bien est-ce que j'arrive à vivre dans ce paradoxe et à rester aussi là-dedans? Et c'est un endroit dans lequel, c'est un petit peu ce que tu disais Jean-Marc au départ, la maturité va grandir. On va grandir au travers de ces choses. On va grandir dans la maturité. Hein? Cette maturité, elle vient pas seulement parce que la vie, elle roule rond et puis tout va bien. Elle vient aussi parce qu'on va se frotter à des choses qui sont contraires à nous. Les relations, elles vont grandir. La confiance va grandir parce qu'on se frotte à des choses. Mais c'est aussi pas seulement un contexte de ma route avec Dieu. C'est mon chemin avec Dieu. Mais c'est aussi un contexte de notre compassion envers les autres. Or, Dieu nous place toujours dans le contexte relationnel, dans le contexte du corps, dans le contexte... Voilà. Et il y a des choses que je vais apprendre ici en apprenant à marcher d'une manière digne du Seigneur là-dedans, qui va m'aider à grandir dans la patience, dans la persévérance, dans l'espérance aussi, Et une des choses que David fait ici, c'est qu'il se rappelle cette espérance, il se rappelle le salut, non seulement de où il vient, mais de ce qui vient. Parce que c'est ça, c'est l'espérance du salut, c'est qu'on va passer l'éternité avec Dieu, c'est qu'on sera dans son royaume, on sera avec lui. Et en même temps, dans ce qu'on apprend, dans le réconfort, la consolation qu'on va vivre, la force qu'on va expérimenter, on va alors pouvoir le transmettre à d'autres. Et c'est un des endroits que je trouve la théologie de la souffrance qui est extraordinaire. C'est que cette théologie, elle nous informe comment on veut ou on répond à Dieu, comment est-ce qu'on marche d'une manière digne au milieu de nos propres souffrances. C'est un endroit où Jésus va venir nous rencontrer hein, parce qu'il porte ces réalités de nos vies avec nous et pour nous souvent. Il est là, il est notre force, il est notre réconfort. Mais c'est aussi de ces endroits-là où on a rencontré Dieu, où on a vécu Dieu, même si on est toujours là-dedans, qu'on va pouvoir aller à la rencontre des autres pour leur amener cela, ce réconfort. Et dans son livre, Scott, que j'ai rencontré en février, là, il dit ça. Lorsque notre capacité, alors je le remets dans des termes peut-être un peu différents, à communier avec Dieu ou à venir à lui, d'accord, et à tolérer les mystères de cette vie augmente, et ça c'est quelque chose qui doit augmenter dans nos vies, notre capacité et notre compétence à prendre soin des autres dans leur souffrance augmentera aussi. Et on a une tendance dans notre monde occidental qui est tellement individuel à juste regarder pour nous. Puis on oublie que ce que Dieu fait dans nos vies, ce n'est pas juste pour nous, pour qu'on aille mieux. Un, c'est pour sa gloire à lui. Et deux, c'est pour amener Dieu, son royaume, chez les autres. Et je termine avec ce deux versets, ou deux passages. Le premier, c'est dans 2 Corinthiens. Vous allez faire le lien. Qui dit « Béni soit Dieu ». Le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père plein de compassion et le Dieu de tout réconfort. Et quand tu es dans la gadoue, c'est difficile de dire ça. Ça ne change pas qu'il est toujours ce Dieu plein de compassion, plein d'amour et le Dieu de tout réconfort. Il nous réconforte dans toutes nos détresses, afin que nous puissions réconforter ceux qui se trouvent dans la détresse. Grâce à l'encouragement que nous recevons nous-mêmes de la part de Dieu. En effet, de même que les souffrances de Christ abondent pour nous, de même aussi c'est par Christ que notre réconfort abonde. Et c'est pas très longtemps, je méditais cette parole de 2 Corinthiens, et il y a quelque chose que j'avais jamais vu en fait, qui m'a sauté aux yeux. J'avais partagé aux hommes déjà, donc pour les hommes, c'est peut-être un petit peu répétition ou pas trop, j'en sais rien. Mais il n'y en a pas trop qui étaient au groupe d'hommes ce soir-là, donc ça va. Il dit, il nous réconforte dans toutes nos détresses. Donc ça, c'est les tiennes, c'est ce que tu vis toi. D'accord ? Tu peux le mettre au lieu de nos, tu mets mes. Il me réconforte dans toutes mes détresses. Afin que je puisse réconforter ceux qui se trouvent dans les mêmes détresses que moi. Non, c'est pas ce que c'est écrit. C'est pas ce que c'est écrit. C'est écrit quoi ? Dans la détresse, dans leur détresse, dans la détresse. Et ça ne veut pas dire parce que quelqu'un a vécu le génocide au Rwanda que moi, je ne peux pas venir amener ce réconfort. Même si je ne l'ai pas vécu. Si je n'ai pas vécu le réconfort dans ma vie, là, tu oublies. Tu vas amener de la théorie. Tu vas amener, il faut faire. Tu dois pas. Ça, c'est ce que t'amènera, si tu ne l'as pas vécu toi-même. D'accord ? C'est seulement à partir de « Il nous réconforte dans toutes nos détresses, afin que nous aussi, par ce réconfort qu'on a vécu, qu'on vit, intérieurement, on puisse réconforter ceux qui se trouvent dans la détresse. » Je peux vous dire que ça, je le vis de manière régulière. Je travaille avec plein de gens dont je n'ai pas vécu la moitié de ce qu'ils ont vécu. Et pourtant, je vis ce verset. Et le gros défi pour chacun de nous, c'est comment est-ce que je vis, comment est-ce que je marche d'une manière digne du Seigneur dans ma gadou à moi, dans ma détresse à moi. Comment est-ce que j'expérimente ce réconfort? Et le réconfort, c'est pas toujours la guérison et c'est pas toujours la délivrance. Parfois, c'est sa présence qui me donne la force et le réconfort de sa présence. Et avec ça, je ne dis pas, et j'aimerais que vous l'entendiez, qu'il faut qu'on arrête de prier pour la guérison puis pour la délivrance. On continue. Le train, il lui faut deux voies pour fonctionner. S'il n'y en a qu'une, ça en est mal barré. Tu confirmes, merci. J'aimerais juste vous mettre une image, vous l'avez déjà vue souvent, parce que je crois que c'est là, dans cette présence, quand Jésus dit « Viens à moi, écoute, écoute ce que je dis. » Hein, parfois, pour écouter nos enfants, on aimerait bien qu'ils écoutent parfois. Alors des fois, ils viennent, hein, c'est chouette, ils viennent jusqu'à nous, mais ils sont là, puis ils n'ont qu'une chose en tête, c'est de refoutre le col le plus vite possible. Hein. Mais ils n'écoutent pas ce qu'on leur dit. Mais combien de fois on fait la même chose avec Dieu? Ah, faut vite que je lise trois chapitres ce matin. Tching. J'ai fait mes trois chapitres, super. Je ne sais même pas si je suis venu. Peut-être. Mais souvent, je fais ça juste parce qu'il faut faire un petit truc comme ça, là, hein, un petit vu. C'est fait. Ouh, sympa, j'ai lu ce matin. Mais je n'ai pas vraiment écouté ce que le Seigneur veut me dire. Parce que s'il veut t'arrêter sur le premier verset que tu lis, parce que c'est ce qu'il aimerait te dire ce matin, puis toi, tu en es déjà au deuxième chapitre, comment est-ce qu'il te rechoppe pour te parler? Et j'aimerais simplement terminer avec cette image. On ne va pas parler des béatitudes, vous m'avez peut-être entendu parler assez sur ça, quoique. Mais simplement cet endroit où on est invité à venir à moi. Et il dit, celui qui construit, tu veux devenir mature, tu veux devenir solide. Et on a tous besoin de devenir plus solide dans nos vies. Construire sur le roc, il faut creuser. Creuser. Entrer dans cette relation. Entrer dans sa parole. Et Jésus est la parole. Viens à moi. Mais quand on creuse, on transpire, hein? Et puis ça prend du temps. C'est plus facile de creuser du sable que de creuser du caillou. Écoute ce que je dis. Quelle est la condition de ton cœur quand tu viens à lui? Un endroit où tu peux déverser, où tu peux entendre, où tu peux rencontrer. Et puis ensuite, c'est de ne pas oublier cette parole. Et c'est de la mettre en pratique. Et je finis avec cet exemple. Cette femme qui était au Soudan du Sud, qui avait beaucoup de temps avec Dieu, qui entendait « tu dois aimer tes ennemis » pendant 5 ans. Il y a des personnes qui étaient dans l'autorité, qui avaient le pouvoir de dire « vous êtes là en équipe, vous devez payer le double de ce que vous payez maintenant dans les 2 semaines qui viennent, sinon il n'y a plus de visa et vous êtes tous dehors. » Oh, des gens super sympas que tu aimes bien dans ta vie. Et pour elle, c'était « Je viens à Dieu, qu'est-ce que je fais Seigneur ?» Et la seule chose qu'elle entendait de Dieu, c'était « Aime-les, bénis-les. » Et elle me partageait comment ce qu'elle avait appliqué ça. Parce que ça ne suffit pas d'entendre puis se dire « Oh, bon, c'est une bonne parole. » Non, il faut le mettre en pratique. Et comment est-ce qu'elle avait appliqué ça dans différentes situations tout au long de ces 5 années qu'elle avait été là-bas. Et le témoignage de ces gens quand elle est partie, et où plusieurs de ces personnes sont venues à sa fête de départ et ont témoigné de cet amour qu'ils avaient ressenti. C'est extraordinaire. Mais ça, c'est, voilà, elle a vécu quelque chose avec Dieu dans ce combat. Elle ne comprenait pas pourquoi ils étaient contre, parce qu'ils viennent pour aider, on vient pour la population. Mais en fait, ils sont contre la population. Et puis bon, il y a tout le côté politique et tout ça là-dedans, hein. Beaucoup d'incompréhension, elle n'a jamais vraiment eu de réponse. Mais elle entendait, aime-les. Elle entendait, bénis-les. Et même une fois, elle a entendu, tu dois faire appel à un de ces gars dans un moment de crise où c'est qu'il y avait les canons, les tirs et tout qui passait, où Dieu lui a dit, tu vas demander à ce gars, qui était un gars qui était contre eux, hein, tu vas lui demander à lui qui vous protège. Et elle était demandée, et il a mis en place toute une barrière d'hommes, de, je ne sais pas tout ce qu'il a fait, quoi, mais, et ils ont été protégés par cette personne même qui était contre eux. C'est incroyable, hein? C'est incroyable. Donc voilà, je vous laisse avec ça, mais je crois que la croix, c'est vraiment l'endroit où on peut venir, où on peut s'approcher, où on peut se rappeler aussi de ce salut que Dieu a pour nous. Où on peut revenir et se rappeler que c'est un Dieu d'amour, que c'est un Dieu de justice. Ça, c'est tout un autre thème, hein? Mais c'est là que la justice, elle se passe. C'est un Dieu de bonté, de compassion et tout ça. Je pense qu'en prenant la scène, on va pouvoir entrer dans ce temps où on peut, en tant que communauté aussi, individuellement, mais aussi ensemble, se rappeler de ce qu'il a fait pour nous et se rappeler aussi qu'on va partager de nouveau le nouveau vin, la nouvelle coupe avec lui lors de son retour. Amen.